culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditrice, auditeur, bonjour, tu es au culte espoir. Alors tu es peut-être sur ta terrasse en train de profiter du soleil, tu es peut-être en train de mijoter de bons petits plats ou encore tu es posé tranquillement sur ton canapé en famille. Quoi qu'il en soit, sois le bienvenu ici, tu es chez toi. Et si c'est la première fois que tu nous écoutes, ben, je t'invite à pousser ta curiosité et à rester en notre compagnie. Parce que le culte espoir, c'est un partage autour de la Bible, des échanges sur des thèmes qui touchent à la foi, des réflexions, des sujets sur Dieu qui nous questionnent, nous interpellent. C'est aussi du vécu avec des témoignages et c'est surtout une belle façon de découvrir un peu plus Dieu. Alors pour cela, je suis accompagné par mes amis Marina et Marilyn. Bonjour les filles.
Salut.
Comment ça va?
Bah bien.
Ça va.
Cool. Content d'être en votre compagnie, je vais y arriver. Aujourd'hui, Emmanuel Studer, bonjour.
Bien le bonjour.
Alors, tu nous fais le plaisir de revenir, merci beaucoup.
C'est effectivement un plaisir.
Ouais. Plaisir partagé. Alors, la semaine dernière, tu nous avais parlé de l'histoire de David. Mmh. Alors, histoire que tu pourras, auditeur, retrouver dans le livre de 2 Samuel à partir du chapitre 12. À partir du chapitre 12 dans l'Ancien Testament, tu avais abordé le thème de l'humilité, l'obéissance ou encore de pratiquer le bien. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Emmanuel ?
Aujourd'hui, ça va être développer l'image, notre image. Et pour le reste, je vous laisse la surprise. C'est-à-dire que dans notre société, on soigne beaucoup l'image, on le sait. Hein, il faut paraître, il faut avoir un bon look, il faut, etc. Et bien, je vais vous parler du look que la Bible nous propose. Et surtout du look que Dieu nous offre.
Sympathique.
Yes. Sympa, oui.
J'ai hâte de voir la suite. Alors que Dieu nous accompagne tout le long de ce culte par son esprit et nous accorde sa paix. Alors Dieu dans ma semaine, chronique habituelle de notre début du culte. Alors Marilyn, la parole est à toi.
Oui, aïe aïe aïe, l'image, quel thème tu nous proposes Emmanuel. Merci beaucoup d'aller titiller par là. Eh bien dans cette chronique Dieu dans ma semaine, je voudrais te partager une façon discrète ou pas dont Dieu m'accompagne dans mes journées et que j'appellerais des clins d'œil de Dieu. Ces moments où pour moi Dieu se montre présent et impliqué et me rappelle qu'il souhaite vivre et enrichir mes journées lorsque je suis prête à l'y inviter. Alors petit tour dans les coulisses. J'avais donc 2 chroniques Dieu dans ma semaine à préparer pour nos cultes. Les thèmes dans la tête, mais pas d'idées. J'avais bloqué le temps de trajet en train pour y travailler et demandé à Dieu de m'inspirer dans ses réflexions, d'être là au cours de cette journée aussi. Et donc, page blanche au départ. Me voilà partie dans une journée intense de rencontres et d'échanges, sans aucun lien potentiel à mes yeux avec ces cultes. Mais voilà que lors du premier après-midi, lors de partage dans ce moment-là, un mot fait écho à l'un des thèmes. On parle agriculture, s'ensuit une série de mots qui se connectent dans ma tête et la base d'une chronique sur un axe que je n'attendais pas du tout. Ça, c'est une de fait. Il reste un autre trajet pour la seconde chronique et une piste m'était venue, alors ça semblait pas assez bien parti. Mais en rédigeant, il me manquait quelque chose à ma réflexion et ça semblait pas jouer. Quelle déception. Le trajet terminé, je sors, je médite sur les axes d'approche en arrivant sur le lieu de mon activité du jour. Et voilà que durant la matinée, l'échange que j'ai avec l'une des accompagnantes qui me parlait d'un aspect de son travail aborde justement le thème de notre culte. Alors, identité, image, je rapproche les deux. Qu'est-ce qui se passe dans mon identité quand je suis malade, quand je perds mes moyens physiques ou cognitifs? Qu'en est-il de qui je suis quand je suis atteint d'Alzheimer, de Parkinson, de maladies dégénératives? Voilà, de grandes questions auxquelles elle me dit ne pas avoir de réponse toute faite, mais qui la travaille. Ça a commencé à me travailler aussi. Et plus largement, on peut aussi se demander sur quoi notre identité est basée, sur quoi se base le regard de l'autre, sur mon travail, ma famille, mes études, mon statut familial, financier, mon apparence. Voilà quoi. De quoi mettre notre esprit en marche pour quelques pistes de réflexion sur ce culte sur l'identité. Et qu'en est-il pour toi, auditeur? Comment définis-tu ton identité? Qui définit ton identité? Le regard de l'autre? L'opinion que tu as de toi-même? Et y aurait-il une valeur plus stable pour se définir que la fluctuance de notre état de santé, de nos réussites, notre situation sociale? Est-ce que c'est un clin d'œil pour toi de Dieu aujourd'hui?
Bah merci Marilyn, et d'ailleurs je voudrais partager un SMS que tu m'as envoyé, c'était un verset cette semaine, et ce verset se trouve dans le Nouveau Testament et plus précisément dans le livre de Jean au chapitre 15 et le verset 16. Alors pour te remettre très rapidement dans le contexte, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples la veille de la Pâque, avant de se faire arrêter par les Romains. Une de ses paroles au verset 16 dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi ». Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors ça, c'est un message très fort destiné aux disciples parce qu'ils avaient une mission d'être des témoins de Jésus à travers le monde. Mais ce message n'est pas adressé qu'à des élites, à des surhommes ou à des surfemmes, mais bien à chacun d'entre nous. Oui, tu es aussi concerné, auditeur, toi qui nous écoutes, Jésus te choisit pour être porteur de fruits. Alors, ça peut tout simplement passer par aider nos aînés à porter leurs courses jusqu'au troisième étage sans ascenseur, laisser la priorité à la voiture qui a des difficultés à s'insérer sur la voie, ou envoyer tout simplement un message d'encouragement à son ami qui traverse une période difficile. Alors, auditeur, auditrice, que ce verset t'encourage à être porteur de fruits autour de toi, par la force de notre ami Jésus-Christ.
Alors, je t'invite à présent à entrer dans notre chronique Louange en musique.
Oui.
Alors, pour rappel, notre thématique du jour, aborder notion d'identité. Qui suis-je? Qu'est-ce que je pense de moi? Quelle image je donne finalement de moi? Alors j'aimerais te proposer de nous orienter vers cette question suivante. Quel est le regard de Dieu sur moi, ce regard fondateur de mon identité? Alors je t'invite à écouter ce chant qui t'apportera quelques pistes. En toi, je sais qui je suis, du groupe Hillsong.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. Il m'a racheté. choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.
Le chant suivant a été écrit par Kirk Franklin, un incontournable compositeur de gospel. Je vois que Brian fait. J'allais dire contemporain, mais le temps a passé depuis. Malheureusement, voilà. Son chant Love Theory s'adresse à Dieu avec ses paroles. Comment se fait-il que tu aimes la partie la moins aimable de moi ? Comment as-tu pu voir que ta vie était le seul cadeau dont j'aurais besoin pour me rendre libre ? C'est incroyable, avec toi je gagne, même si je perds, et un peu plus loin, aide-moi à voir comme toi, peu importe ce que je traverse. Oh!
Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah.
How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me. How could you see your life was the only gift I'll ever need to be free? It's amazing with you. I win even if I lose. Everything's working for my good for always.
Come on.
He saved the day. Ooh. He will.
It sounds crazy, don't it? Hey.
That's how it's supposed to be.
what it means.
More or less of me.
That's why.
I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you.
Father.
I don't wanna love nobody but you.
I really mean it this time.
I don't wanna love nobody but you.
Jesus.
I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you.
Let me tell you what it does.
He saved the day.
Come on.
He will come through.
He will let you down, but
he won't allow. That's not what superheroes do.
See, I will never find
no greater love.
A love like this
makes my heart beat.
The day.
All I wanna do is make you proud.
Let me say it again.
He saved the day.
Woo!
He will come through.
It feels so good.
He won't
allow
that's not what superheroes do.
Yes.
No greater love.
Hallelujah.
Makes my heart beat.
For the rest of my life.
All I wanna do is make you proud.
Everybody sing.
I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you.
You're the savior.
I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you.
Yes.
I don't wanna love nobody but you.
Alors, nous voilà dans la chronique Dieu agit, une chronique où l'on témoigne d'un Dieu qui agit dans nos vies. Alors, Marilyn, quel est le témoignage que tu souhaiterais nous partager aujourd'hui ?
Eh bien, cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer Joanne, une jeune qui m'a partagé comment elle a passé d'une identité basée sur le regard des autres à une identité basée sur la vie de Dieu. Alors, je vous propose d'écouter. Alors voilà, Joanne, merci d'avoir accepté de partager avec nous un bout de ton histoire de vie et de comment Dieu t'a impacté dans cet aspect de ton identité. Et voilà, on est accueillis dans le studio du Créateur. Alors raconte-nous comment ça s'est passé. Est-ce que tu as toujours été la jeune femme qu'on connaît, rayonnante, posée?
Alors, on aurait dit oui. Mais non, en fait, c'est vrai que j'ai eu un parcours quand même où je me suis fait, on va dire, quand même du mal à moi-même, parce que je me suis longtemps comparée à mon entourage. Je me suis longtemps comparée, on va dire, mes cousines, parce que, voilà, quand on est jeune, quand on est ado, on aime bien faire les photos, on aime bien faire des poses et tout, etc., etc. Et à chaque fois, moi, que je regardais les photos, je me trouvais toujours moins belle qu'elle. Vraiment, je me dévalorisais. Je me trouvais pas belle en fait, vraiment. Du coup, pendant un bon moment, je dirais entre mes 16 à 20 ans, ben je me trouvais pas belle en fait. Je me trouvais moche. Et puis aussi, ce qui a joué, c'est que il y a aussi dans mon entourage aussi eu des remarques. Comme quoi j'avais le nez aplati, enfin voilà, un peu gros sur mon visage et tout, etc. Donc en fait, ce qui a fait que je me suis encore plus trouvée encore plus moche en fait, pas belle. Et du coup voilà, c'était un peu compliqué. C'était un compliqué pour moi à cette époque-là. Donc voilà, en fait, durant toute cette période, j'étais vraiment pas bien. Je me regardais dans la glace et puis je me disais mais en fait je suis moche, enfin voilà, j'avais vraiment une mauvaise image de moi-même. Et du coup ça m'a affectée encore jusqu'à ce que je fréquente donc mon mari qui était mon copain mais qui est devenu mon mari aujourd'hui. Ça a affecté en fait un peu dans notre relation parce qu'en fait j'avais besoin qu'il me dise que j'étais belle, j'avais besoin qu'il me rassure, j'avais vraiment besoin qu'il me valorise, j'avais besoin que... Voilà, et j'avais vraiment besoin que je sache que j'étais vraiment la seule fille, quoi, dans sa tête, quoi, qu'il regardait pas une autre. Bien qu'il y aura toujours des filles plus belles que moi, ça c'est sûr. Et en fait, voilà, et j'ai beaucoup fonctionné, en fait, sur la comparaison. Et je me suis rendu compte, avec le recul, que j'ai beaucoup fonctionné avec la comparaison, me comparer à mes cousines, me comparer à des copines, me comparer vraiment à aux autres. Et du coup finalement, comme j'ouvrais souvent ma Bible, ben, j'étais tombée sur des textes qui disaient que Dieu, en fait, m'avait vraiment voulu, qu'il m'a tissé dans le ventre de ma mère. Donc, c'est lui qui a fait que je suis comme ça, en fait. Et puis, il y a un psaume vraiment qui m'avait marqué. Donc, je vais le lire. C'est dans psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Donc, en fait, ce psaume, il m'avait vraiment marqué parce que ça montre que à un moment donné, il faut accepter comment Dieu nous a créés, qu'il faut pas changer quelque chose sur surtout comme en fait on est physiquement, en fait, dans notre société, je trouve qu'il y a beaucoup ce problème, ce souci là de l'apparence, et en fait finalement je me suis dit ben Dieu, il t'a fait comme ça, enfin t'as un nez aplati, mais finalement c'est en harmonie avec mon visage, avec comme je suis. Et j'ai appris à accepter. Et surtout, la question que je me suis posée, c'était mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est l'apparence, c'est le physique, c'est comment on paraît dans la société, ou alors comment on est dans l'être et dans notre caractère ? Et c'est là que je me suis rendu compte que la vraie question à me poser, c'est comment je suis au niveau de mon caractère ? Donc voilà, en fait, le Seigneur, il m'a vraiment révélé qu'il y avait des choses vraiment à changer, qu'il y avait vraiment des défauts que je devais abandonner, en fait, et vraiment le laisser transformer tout ça. Alors, le plus gros travail, c'est d'accepter nos défauts, et c'est d'accepter que ce soit Dieu vraiment qui le change. Donc voilà. Et ce qui fait que, aujourd'hui, je vais mieux, je me sens bien, grâce au Seigneur, et que c'est toujours un travail au quotidien. De voir ce qui a encore à changer. Alors il y a des choses que je peux pas changer, comme je l'ai dit, sur mon physique, sur aussi plutôt je vais dire physique, parce que ça compte beaucoup aujourd'hui maintenant, le physique. Donc je veux dire que en fait le physique on peut pas changer, si ce n'est de perdre du poids ou des choses comme ça qu'on peut agir dessus. Mais sinon après la forme de notre visage, nos yeux, notre nez, notre bouche, si on a des oreilles décollées, enfin voilà, des choses comme ça, voilà. On est comme ça et c'est ce qui fait notre particularité. Donc en fait moi maintenant ce que je regarde beaucoup, c'est mon caractère et ma vraie référence, en fait, c'est Jésus. C'est Jésus que j'ai accepté comme mon sauveur. Et vraiment ma référence, parce que lui, en fait, il a pas cherché à être beau, en fait, aux yeux des gens, aux yeux des hommes. Il a cherché vraiment à être bon, en fait, rempli de bonté, rempli d'amour, rempli de vraiment du souci des autres, de pouvoir être auprès des autres, être à l'écoute des autres, et vraiment être bon et pas avoir des arrière-pensées, donner sans attendre en retour. Et c'est ce qui est merveilleux, en fait, ce que je trouve avec lui, c'est qu'en fait, c'est ça, en fait, la vraie beauté. Et c'est ce que j'aspire vraiment. C'est ma référence. C'est plus maintenant une référence les artistes, les chanteurs, etc., etc. Mais c'est vraiment Jésus, ma référence. Et je remercie le Seigneur vraiment pour de m'avoir changé ma manière de voir les choses. Et de me comparer à Jésus et non plus à mon entourage ou à la société. Voilà.
Merci.
Alors, Emmanuel, la parole est à toi.
Merci beaucoup. Ce témoignage est très intéressant parce que ça va totalement dans le sens que je voulais développer ce matin. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir parler de l'image. Parce que très souvent, quand on parle qu'on est à l'image de Dieu, on le pense d'un point de vue plus ou moins spirituel ou caractère, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là qu'on ressemble à Dieu. Dans les divers courants chrétiens, religieux chrétiens, on a cet aspect-là, c'est une ressemblance, d'idées, on est intelligent, on est doué de parole, enfin, c'est dans ce sens-là qu'on met la ressemblance. Et justement, qu'en est-il de la ressemblance physique ? Et ça, je sais qu'aujourd'hui, et la preuve, c'est le témoignage que vous venez de passer, qu'aujourd'hui, c'est un problème pour beaucoup de personnes qui se trouvent pas belles, qui se trouvent pas bien looké, tout simplement. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais Dieu nous a créés à son image. Et c'est pas que l'image que l'on conçoit comme ça, intellectuelle, spirituelle et autre, c'est vraiment aussi à son image physique. Pourquoi ? Alors, il y a deux textes qui sont très intéressants dans la Bible, c'est Genèse, chapitre 1, versets 26, 27, 28, je vais y revenir, et puis Ézéchiel, exactement la même référence, Ézéchiel, chapitre 1, 26, 27, 28. Alors, Genèse, que dit la Genèse ? On sait bien qu'au premier chapitre du premier livre de la Bible, de la Genèse, on nous parle de la création de notre terre, de l'organisation. Pour être plus précis, c'est pas la création dans l'absolu. Alors, pour certaines choses, oui, mais de l'organisation de notre terre, en tout cas dans le premier verset. Et dans cette organisation et cette création pour en faire un monde super, pour y accueillir qui ? Faisons l'homme à notre image. Alors, ce texte a été déjà vu, revu dans tous les sens. Et on a dit beaucoup de choses qui, à mon sens, ne sont pas forcément toutes justes. D'abord, on a un pluriel, c'est intéressant, parce que ça nous montre un peu la nature de Dieu, que Dieu, il est le tout autre qui nous échappe. Ensuite, il va faire un homme à son image, c'est-à-dire ish et isha, c'est-à-dire mâle et femelle. Donc, on retrouve un pluriel. On se dit, tiens, ça c'est intéressant quand même aussi. Et puis, il va avoir un rôle, cet homme, hein, de s'occuper et de gérer tout ce qui vient d'être créé en amont pour lui, afin que justement cette planète soit un jardin sublime pour y habiter, pour y être et pour y résider. Si maintenant on saute chez Ézéchiel, Ézéchiel est un prophète de l'Ancien Testament qui a vécu en exil. On sait que, on se rappelle peut-être que le peuple d'Israël a eu quelques problèmes avec ses voisins et que, parfois et même assez souvent, il a perdu et toute une partie de la population, comme le prophète Daniel, comme le prophète Ézéchiel, ont été emmenés captifs dans un autre lieu. Qui était en l'occurrence là, vraisemblablement le nord de l'Irak, sud de la Turquie, quelque chose du genre, pour ce qui est en tout cas du prophète Ézéchiel. Et ce prophète a eu la chance, comme d'autres, comme le prophète Daniel, comme Jean de l'Apocalypse, etc., de voir, d'avoir des visions que Dieu lui a données, en l'occurrence une vision sur le trône de Dieu, enfin sur là où habite Dieu, là, enfin là où il est et comment il est. Alors naturellement, le pauvre homme se retrouve avec une vision de trucs qui n'existent pas sur Terre, donc il est très très emprunté quand même pour décrire ce qu'il voit, parce qu'on peut très bien décrire une voiture, une chaise et ainsi de suite, on connaît, on les fabrique, mais quelque chose qu'on n'a pas fabriqué et qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas ici-bas, c'est très compliqué. Donc le prophète va user d'un vocabulaire en disant régulièrement « c'était comme ». Alors je voyais « comme ». Alors le « comme », ça veut bien dire que c'est pas... Ça ressemble, mais voilà, bref. Donc, il essaye péniblement comme ça de décrire ce qu'il a vu. Alors, il va décrire des animaux, il va décrire des êtres étranges avec des ailes, enfin bref. Et il en arrive au trône de Dieu, chapitre 1, versets 26, 27, 28. Et il va décrire le trône de Dieu et il va dire c'était comme une pierre de saphir. Bah, donc, c'était déjà pas une pierre de saphir, c'était comme, très très lumineuse. Et dessus, qu'est-ce qu'il va voir sur ce trône ? Comme un homme. Donc, j'insiste très lourdement sur ces comme, d'accord ? Hein ? Donc, il va voir comme un homme. Et qu'est-ce que ça veut dire, voir comme un homme ? C'est-à-dire qu'il va quand même voir visuellement quelque chose, même si c'est extra lumineux. Il va décrire qu'il y a une lumière éclatante qui en sort depuis sa taille jusqu'en haut, de sa taille jusqu'en bas. Mais il va quand même voir une tête, un buste, des bras, des jambes. Bah oui, s'il dit que c'est comme un homme, c'est que c'est quand même ça, hein, à la base. Donc, et qui est cet homme ? C'est le trône de Dieu qu'il voit. Donc, qui est cet homme ? C'est Jésus. C'est Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est le verset 28 qui va donner la clé d'interprétation. Et au verset 28, il est dit que ce qu'il vient de voir, c'est-à-dire ce comme un homme resplendissant sur le trône de Dieu, c'est en fait l'image de la gloire de Dieu. C'est ce qui est dit au verset 28. L'image de la gloire de Dieu. Donc si ce comme un homme est l'image de la gloire de Dieu, on peut se dire que quand Dieu nous crée à son image, en fait, il nous crée à l'image de sa gloire. Je ne sais pas si jusque-là, vous arrivez à me suivre. J'espère. Parce que c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire que Dieu, le Dieu visible se présente sous les traits de Jésus, c'est-à-dire de comme un homme. Naturellement, le Jésus qu'on retrouve aussi dans l'Évangile, le Jésus transfiguré, c'est-à-dire lumineux, c'est clair, il n'est pas sur terre, il n'est pas coincé dans notre statut d'être humain pécheur, avec tous les défauts que cela implique, comme les nez aplatis pour Johann. Mais il est clair que nous avons cette apparence physique aussi. Et je trouve que ça, c'est merveilleux de se dire que le cadeau, c'est que Dieu lui-même prend une certaine apparence pour être en contact avec sa création quelle qu'elle soit, hein, ici, ailleurs, on n'en sait rien dans l'univers. Il prend cette apparence-là pour se présenter, pour venir à la rencontre de ses créatures, de ceux qu'il aime. Et pour une créature particulière, c'est-à-dire Ish et Ishal, le mâle et la femelle homme, hein, Mensch on dirait en allemand parce que c'est générique, l'être humain, eh bien Dieu se dit à un moment donné, tiens, je vais créer une créature à l'image que je prends moi pour me présenter. Donc c'est l'image de l'image que je prends pour me présenter. Mais rendez compte le cadeau qu'il nous fait. Le truc, c'est extraordinaire. Alors, ok, il y a eu le péché qui nous a bien abîmés, bien amochés, d'où des jambes un peu plus courtes, ou en effet, pourquoi pas, des oreilles décollées. Qu'importe, à la base, je suis une pâle photo. On est tout à fait d'accord que par rapport à l'original, il n'y a plus rien à voir. Mais on a quand même cette apparence de base que Dieu se donne lui-même lorsqu'il vient se présenter à nous. Et ça, c'est un cadeau merveilleux de se dire « je suis aussi physiquement à son image ». Et en plus, il va beaucoup plus loin parce qu'à un moment donné, il va rentrer dans notre physique par Jésus-Christ. Mmh. Il va accepter de se faire tout petit, de quitter son monde et de venir chez nous et de prendre notre corps, cette fois, c'est-à-dire l'image de sa gloire, et de venir passer du temps avec nous sur cette terre, de nous montrer il est le chemin et de nous montrer justement ce chemin. Donc ça, pour moi, c'est un cadeau juste merveilleux par rapport au message. C'est que Dieu nous a créés à son image, pas que dans une image spirituelle, intellectuelle, de capacité que parce qu'on est en couple, on peut procréer, comme Dieu est créateur, je peux aussi être créateur, etc. Parce qu'on a beaucoup dit ce genre de choses. Ce n'est pas faux d'ailleurs, hein. Ce sont toutes des choses qui ont été dites et qui sont tout à fait justes. On est à l'image au sens large. Mais par contre, on ne parle jamais de cette image physique. Et c'est ça que je voulais souligner. C'est que justement, même physiquement, nous sommes à l'image de Dieu. Et comme le disait votre témoin de tout à l'heure, Dieu nous a désirés. Il nous a désirés à son image, face à lui, comme vis-à-vis. Et il nous a créés et conçus et fabriqués dès le ventre de notre mère. Et comme c'est tout cadeau, 100% cadeau, je voulais vraiment souligner ça. Parce que combien de fois, en effet, on est mal dans sa peau, on ne se trouve pas comme ci, on ne se trouve pas comme ça. Pourquoi ? Et à quel point l'image est importante ? C'est que justement, le malin, lui, s'amuse à reprendre que ce qui existe. Il ne peut pas créer, hein, il n'est pas créateur, lui. Donc il reprend ce qui existe et il en fait autre chose. Et qu'est-ce qu'il fait ? Aujourd'hui, il reprend l'image, mais justement pour dire, voilà, l'image type, c'est ça. Et si on ne rentre pas dans le moule, eh ben, automatiquement, on a un complexe. Ah, j'ai 20 kilos de trop, ça joue pas, je peux pas m'acheter des pantalons fins, je fais pas 1m80, je peux pas les mettre, et ainsi de suite. Et donc le malin, ça c'est son grand truc, il va reprendre exactement tout ce que Dieu fait, mais pour le dénaturer, et justement pour que ça crée des problèmes. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on est une société qui, en effet, met en avant et en exergue cette image physique énormément, par rapport au look, par rapport aux habits qu'on a, par rapport au poids qu'on a, par rapport à la taille qu'on a, par rapport au nez qu'on a, aux oreilles, et ainsi de suite. On le voit par exemple au Brésil, à partir de 14-15 ans, les jeunes filles se font déjà la chirurgie esthétique pour être justement autrement que ce qu'elles sont. Donc vous voyez à quel point l'image va jusqu'au point de se faire soit amputer, hein. Des fois, on s'enlève des morceaux, soit se faire rajouter des trucs, qui sont des trucs donc, qui ne sont pas de notre propre corps, donc c'est terrible quand même, comme invasion et dans notre propre corps. Voilà sur quoi, justement, notre société joue. Eh bien, j'aimerais souligner que Jésus nous a offert le privilège d'être à son image, même à son image céleste. Et maintenant, eh bien, à nous de prendre ce cadeau, de se laisser habiter par cette idée que, justement, nous sommes à l'image aussi physique de l'image de la gloire de Dieu.
Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es au Culte Espoir et si tu viens d'arriver, surtout reste avec nous, on a encore de belles choses à partager. Alors nous avons Emmanuel Studer qui vient de nous parler d'un message assez fort qui parle de l'image que nous pouvons avoir de nous, quelle image que je donne de moi, et puis finalement une image assez biaisée aussi par notre société. Alors cette chronique qui nous permet de réagir aussi à chaud à ce que tu viens de nous dire Emmanuel, à ce qui vient d'être dit, ben voilà. Marilyn, Marina, qu'est-ce que vous avez envie de souligner? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce message?
Bon, alors, assurément, dans notre société, on est dans une promotion du look magnifique, extraordinaire. On a même des métiers de conseiller en images, hein,
ouais,
qui sont spécialistes, d'ailleurs, pour nous donner une apparence qui conviendrait et qui perfectible, en tout cas, de notre être, pour qu'on soit le plus adapté, le plus ajusté. Et comme tu le disais, Emmanuel, aussi, ben voilà, dès que ça convient pas, ben, on enlève une zone, on va voir un chirurgien qui, avec son petit bistouri contre une bonne tonne d'argent, peut nous transformer, ou pas, en tout cas, en quelqu'un de plus beau, semble-t-il. En tout cas, c'est ce qui est proposé. Et c'est vrai qu'en écoutant le témoignage de Joanne, on retrouvait vraiment toutes ces questions, du regard vers soi, du pas assez, du trop, du je suis moins que, je suis pas pareil. Ben voilà, c'est des diktats aussi que la société a vraiment ancré finalement dans notre regard à nous, avec des mots qui sont parfois durs, hein, contre soi, mais je suis horrible, je suis tellement moche, enfin, c'est très très fort. Et parfois, on a tendance à se dire, bon, bah, c'est vrai, on se préoccupe beaucoup de l'enveloppe extérieure, le paraître, mais finalement, pour Dieu, ce qui est important, c'est l'être, c'est le caractère, c'est notre construction intérieure, etc. Et puis finalement, en entendant ton partage biblique, je me dis, non, mais revenons quand même à notre aspect physique et faisons-en quelque chose, réconcilions-nous quelque part.
Tout à fait, ouais.
Et je crois qu'il y a encore un bout de chemin à faire autour aussi de notre rapport à notre corps.
Pour la continuité de ce que tu viens de dire, de vraiment être restauré par Dieu en disant, bah, en fait, Marina, Marilyn, Emmanuel, nous sommes de belles créatures, en fait, et de le croire, parce que on a aussi dans la société des références, et quelle est vraiment notre référence? Est-ce qu'elle est en Jésus, ou est-ce qu'elle est en l'image que nous voyons à la télé ou sur Internet? Quand on surfe sur Internet, on fait dérouler des pages, et puis sur le côté, il y a les bandes annonces, les bandes publicitaires où ils disent, gagner du muscle, ou alors augmenter votre performance. Quelle est finalement ma référence? Quelle est ta référence dans ta vie? Et d'accepter d'être restauré, cette acceptation en fait.
Et je trouve qu'il y a quand même il y avait aussi quelque chose d'intéressant à la fin quand tu parlais de un peu comment Dieu est peut-être, et puis le malin, comment il fonctionne. Et ce qui m'a marqué, c'est que finalement Dieu, on est à l'image de l'image de l'image. Mais donc une image lointaine, mais une image quand même qui à la base était parfaite et qui a été dénaturée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que y a des situations où c'est pas forcément facile. Et de voir que, en fait, selon ce que tu partages, Dieu, il a inclus, il a gardé, malgré que ça ressemble peut-être pas tout comme... Il y a eu des transformations en cours de route, il garde, il inclut, alors que du coup, le malin a tendance à exclure. Il faut rentrer dedans ou pas, alors que Dieu, il dit non, c'est bon, c'est quand même l'image, viens.
Les marqueurs sont toujours là.
C'est ça.
Oui, c'est justement ça qui est merveilleux. Mais non seulement ça va changer aussi mon image par rapport à moi-même, mais ça va changer mon image par rapport à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me fais moi comme image de l'autre aussi? Donc, si j'arrive à restaurer cette image de moi pour moi, automatiquement, j'espère, mon regard sur l'autre va être à l'identique. C'est-à-dire que, je suis en paix avec mon image, donc je vais être en paix avec l'image que les autres renvoient d'eux aussi. Et ça va éviter tout plein d'autres thèmes, mais là, on va déborder la critique et autres,
Bien sûr.
Tu as vu celui-là, le gros nez qu'il a, ou les pieds plats qu'il a, et ainsi de suite. Donc, si mon regard sur moi, et sur mon physique, et sur mon être, est en paix, je vais aussi être en paix avec le regard que je vais porter sur l'autre. Ça va de pair.
Et ça soulève cette question dont on parlait aussi dans le témoignage, ce problème de la comparaison, avec lequel de plus en plus je me rends compte qu'on se détruit. C'est pas vraiment un truc intéressant.
Et parfois on se présente avec des comparaisons en disant mais je suis pas comme lui, je suis plutôt comme ci, comme ça.
C'est vrai.
Et c'est presque venu une présentation de qui on est, la comparaison.
C'est vrai.
C'est assez intense. Et toi, auditeur, est-ce que ça te parle? Est-ce que cette image que Dieu a envers toi, est-ce que ça te parle?
Si tu nous rejoins, tu es dans le culte Espoir. Bienvenue à toi. Nous entrons donc dans cette chronique Dieu dans les arts, et je vais te partager un morceau de Mick, un rappeur bien aimé de notre émission. Ce titre est tout neuf, il a tout juste un mois, tiré de son tout nouvel album The Break. Et il parle en plusieurs épisodes du regard de Dieu sur moi, de comment je me vends aussi dans mon quotidien face aux autres, de ce que j'apprends de moi et de ce que j'apprends de Dieu. Ce morceau est doucement joué au piano par Anna Featherstone, une chanteuse et musicienne de jazz belge. Elle y interprète avec délicatesse le refrain que vous connaissez peut-être du chant « 10 000 raisons » de Matt Redman. Bonne écoute.
Dimanche midi dans la voiture, moi je fais toujours bonne mine. Mais chaque semaine à l'église, je trouve ça un peu lourd. Comme d'habitude, j'étais pressé que ça se termine. Comme d'habitude, pas trop le moral sur le trajet du retour. Maman sur le siège passager, elle est toujours stressante. Je pense qu'elle m'en veut un peu, je peux le voir dans son regard. Elle doit encore se dire que ma tenue était indécente. De toute façon là-bas on manque jamais de me le faire savoir. Je suis pas toujours super à l'aise quand faut se mettre à chanter. Je me sens jugé quand j'ai choisi de ne pas rester debout. Et quand le pasteur prêche, je suis vite dépassé. Puis 50 minutes de speech, c'est bien trop long à mon goût. Et si j'ai zappé les quasi trois quarts de ce qu'il a dit, il y a peut-être une chose qui m'a marqué cette fois. Je crois que j'ai compris que Dieu il m'aime comme je suis. Et si c'est tout ce que j'ai retenu, c'est déjà ça. Je garde le sourire pour mon mari qui lui n'est pas croyant. Si je suis pas bien, j'espère qu'au moins ça se voit pas dans mes yeux. Je veux pas le dire pour ne pas choquer les enfants, mais en fait je crois que je suis bel et bien fâché avec Dieu. D'habitude je suis à fond, en plus c'est moi qui chante devant. Pour mon chéri, je dois faire l'effort de bien garder la face. Je sais qu'il doit se dire qu'il perd encore son temps, mais ce qu'il ne sait pas c'est que moi-même je me sens de moins en moins à ma place. Je me reconnais plus, et la flamme en moi manque à l'appel. Je contrôle plus rien, je t'aime de l'amour et je récolte que les ronces. Au boulot c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, et mes prières sont toujours laissées sans réponse. Dans cette matinée religieuse un petit peu insipide, il y a une phrase qu'on a chantée une ou deux fois. Elle disait Dieu reste Dieu et c'est lui qui décide. Et si c'est tout ce que j'ai retenu, c'est déjà ça. J'ai pris sur moi, je me suis levé ce matin. Je le fais pour ma femme et ma fille, si ça peut faire plaisir. Même si pour moi, tous ces discours, ça frôle le baratin, je vais pas le cacher. Plus d'une fois, ça m'a fait réfléchir. Dans le rétro, je vois mon beau-père avec les yeux fermés. Je sais que les dimanches à la messe, c'est le récit de toute sa vie. Et là, je parie qu'il fait les heures sup, toujours en train de prier. Mais moi, c'est pas du tout dans ce délire-là que j'ai grandi. Dans les couloirs de la paroisse, je peux entendre les critiques. J'aimerais qu'il me laisse du temps, j'aimerais comprendre avant d'y croire. Je connais ni les livres, ni les paroles des cantiques. Mais ce n'est pas une raison pour me voir comme la brebis noire. Et ce matin, j'ai pas tout compris, ni vraiment saisi l'essentiel. Mais j'ai retenu une poésie lue par un enfant, je crois, qui dit qu'il y a peut-être une force tout là-haut dans le ciel. Et si j'arrive à cette question, c'est déjà ça. La voiture du gendre a débarqué, moi je me suis dit enfin. Le dimanche à l'église, moi je l'attends toute la semaine. En plus ici j'ai un titre, ici on m'appelle l'ancien. Et je suis fier car c'est ma fille là qui chante sur la scène. Mais aujourd'hui dans mon cœur Dieu a tiré la sonnette d'alarme. Je me suis senti repris et ma honte est devenue pesante. Et donc je ferme les yeux pour retenir mes larmes. Non je veux pas pleurer à côté de ma petite fille adolescente. 30 ans que je joue sur l'apparence et la réputation. Alors que dans ma vie sociale, c'est le désert complet. Assis sur les bancs de l'église, un peu par tradition, j'en ai oublié d'être véritable et concret. Je mets toujours tout sur le dos de Lucifer. Alors que la paix dans la famille peut commencer par moi. Mais ce n'est pas que dire, mais c'est aussi faire. Et si c'est ma leçon du jour, c'est déjà ça. Thank you.
Ben nous voilà arrivés à notre temps de prière. Cette question de l'identité, de l'image, touche à quelque chose de très précieux et sensible en chacun, je crois. Et je voudrais te proposer un temps de prière où nous allons remercier Dieu et lui demander de restaurer nos identités, nos images, brisées partiellement. Et cette prière est inspirée partiellement du site Fréquence Chrétienne. Alors Seigneur Dieu, notre Créateur, merci de ce privilège d'avoir la vie aujourd'hui et de venir devant toi. Nous venons t'apporter nos identités qui ont besoin de stabilisation de ton regard. Tu connais nos parcours, nos blessures, nos besoins, ce qui nous dérange. Père, viens mettre en lumière ces fonctionnements d'autocritique, de comparaison qui nous détruisent et qui viennent de l'adversaire. Que chacun puisse prendre conscience de son identité en toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Libère-nous de l'opinion extérieure, Seigneur, et montre à ceux qui en ont besoin que ton amour parfait suffit. Si tu es avec eux, qui sera contre eux? Je te prie, Seigneur, que chacun prenne conscience de ce trésor qui se cache en lui. Merci de cette valeur si grande que nous avons à tes yeux et pour ton action persévérante dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Alors, on va quand même pas se quitter sans une action du jour. Yes. Alors, Marina, une petite action pour nos auditeurs et auditrices?
Absolument, qui s'appellerait « Voir avec les lunettes de Dieu, découvrir qui je suis, ma valeur intrinsèque, en dehors des stéréotypes, des attendus humains », comme le suggérait aussi ce chant gospel de Kirk Franklin, « Aide-moi à voir comme toi, peu importe les saisons que je traverse ». Alors je t'invite à choisir pour cette semaine un temps calme, un lieu sécurisant, ton canapé, un jardin, un espace bien à toi, au calme, où tu te sentes bien. Tu vas prendre pour cette action un miroir. Aïe, aïe, aïe. Et tu vas le déposer devant toi. Ça va être serein. Tu vas le déposer devant toi, tu vas fermer les yeux, c'est ce que je t'invite à faire, et à la lumière de ce partage biblique, je t'invite à prendre le temps de demander à Dieu, « Ok, Seigneur, dans la Bible, tu dis que je suis une créature merveilleuse, créée à ton image, l'image de l'image que Dieu prend pour se présenter à toi. Et alors que dans quelques instants, je vais ouvrir les yeux, montre-moi, révèle-moi au travers de ce miroir ce que tu aimes en moi, le trésor que tu entrevois, comment tu me vois. Et tu vas alors ouvrir les yeux et tu vas regarder dans ce miroir avec les lunettes de cet amour inconditionnel de Dieu. Prends le temps de te découvrir vraiment. Apprends à t'apprivoiser, ça peut prendre un petit peu de temps. Et apprécie le moment. Prends le temps qu'il te faut pour ce changement de regard, ce changement de lunettes. Et quand tu as fini, pourquoi ne pas noter ce que tu auras découvert de toi, ces petites pépites, dans un cahier que tu pourras évidemment relire de temps en temps quand tu seras dans des périodes de doute. Et tu peux évidemment réitérer cette action dans la semaine plusieurs fois et y revenir, peut-être aussi encore dans quelques mois.
J'étais en train de réfléchir à quel miroir j'allais utiliser de ma maison. Alors merci Marina pour cette action. Alors notre culte touche à sa fin, je suis néanmoins très heureux de l'avoir partagé avec vous. Emmanuel, merci pour ton message. Merci de nous avoir accompagnés pour ces deux semaines. Nous te souhaitons une belle continuation. Sois abondamment béni, toi et ta famille.
Merci de m'avoir invité. J'ai eu énormément de plaisir, moi aussi, à partager ces temps avec vous.
Merci. Merci à toi, auditrice, auditeur, d'être resté avec nous. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir être en ta compagnie là où tu te trouves. Quant à moi, je te donne rendez-vous, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.